Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est François Piquemal, député LFI NUPES de Toulouse. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, j'aimerais avoir votre réaction à la décision du Conseil constitutionnel qui a rejeté pour la deuxième fois un référendum sur la réforme des retraites.
Bien, c'est une décision qui est dommageable, bien que malheureusement peu surprenante. On a vu que le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, est à remettre en question au niveau de sa composition, des nominations, et est un maintenant... Sûrement une des institutions qu'il conviendra de repenser dans le cadre de la 6e République, comme d'autres, pour qu'elle soit peut-être davantage axée sur le droit que sur les influences politiques.
Alors, la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue le 6 juin, deux jours avant la proposition de loi du groupe Liot qui veut abroger la réforme. Il y a une chance que les députés annulent cette loi toujours massivement rejetée par les Français?
Alors, il a les probabilités que cette loi passe sont vraiment réelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de parlementaires qui estime avoir été bafoué avec l'utilisation à longueur de temps du 49.3. Et au moins sur la question du fameux article 7, c'est-à-dire sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite, il y a quand même, me semble-t-il, une majorité qui peut se dégager.
Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de la réforme du RSA. La première ministre Elisabeth Borne a confirmé de nouvelles conditions d'accès au RSA pour les allocataires. Ils devront s'inscrire à Pôle emploi et avoir un quota d'heures d'activité. Pour quelles raisons vous opposez-vous à cette réforme?
Parce que, à notre sens, cela va justement dans le mauvais sens et ne prend pas le problème par le bon bout. Ce dont souffrent aujourd'hui beaucoup de travailleuses et de travailleurs français, c'est le manque de revalorisation des salaires, notamment dans le travail, évidemment, mais aussi du sens du travail. C'est pour ça que nous, on est pour une augmentation de ces derniers. Je rappelle qu'une augmentation de 4% des salaires, c'est 12 milliards d'euros qui sont dans les caisses de retraite et qui peuvent entrer et bénéficier à tout le monde. Et on est pour l'augmentation du SMIC aussi, à 1600 euros. Nous avons proposé ces mesures ainsi que l'indexation des salaires sur l'inflation. Malheureusement, que ce soit le camp d'Emmanuel Macron ou celui de Marine Le Pen, ont voté contre. Donc nous, on continue cela. Et vous savez, je pense que personne ou très peu de gens, hein, parce qu'on va toujours trouver des exemples, mais ce sont des exceptions qui confirment une règle générale. Et la règle générale, c'est que personne n'est au chômage par plaisir. Tout le monde veut avoir du sens dans sa vie, dans la société, et ça passe par avoir un emploi qui en ait aussi du sens, mais qui soit correctement payé pour pouvoir s'en sortir.
Allez-vous demander que le RSA soit versé de manière automatique, puisqu'on sait qu'un grand nombre de personnes ne demandent pas cette aide, car ils ont des difficultés à effectuer eux-mêmes la démarche, ou bien ne savent pas qu'ils ont tout simplement droit au RSA?
Oui, vous avez raison. Je crois que c'est un tiers des personnes aujourd'hui en France qui n'ont pas de recours au droit, c'est-à-dire qui ne demandent pas les aides auxquelles ils pourraient bénéficier. Donc vous voyez, ce fait-là va à rebours du discours qu'on entend sur une France des assistés qui ne livrait que des aides. Et là-dessus, je pense que c'est un problème plus profond, qui est un problème d'accès à des êtres humains dans les services publics. C'est-à-dire d'avoir des gens qui puissent vous répondre et pas des numéros verts qui vous renvoient un autre numéro vert qui vous renvoie un autre numéro administratif, mais bien des personnes qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Et ça vaut bien sûr pour les aides auxquelles vous avez droit en tant que citoyen, puisque la collectivité cotise via des impôts pour cela, mais aussi dans l'accès à l'emploi.
Alors, la réforme va inclure un assouplissement et une simplification des règles de sanction des allocataires du RSA ne remplissant pas leurs obligations. Est-ce qu'il y a un risque là de voir aggraver la précarité des allocataires qui, pour de multiples raisons, ne rempliraient pas les conditions exigées?
Je pense que c'est certain qu'on va de toute façon vers, avec les politiques qui sont menées en matière économique et de travail, par Emmanuel Macron vers une précarisation généralisée. Vous savez, Monsieur Macron s'enorgueillit de faire baisser le chômage, mais quand on regarde de plus près les chiffres, on se rend compte que ceux-ci sont sujets à caution, que ça dépend quelle catégorie de type de chômeur vous comptabilisez, que beaucoup d'auto-entrepreneurs, par exemple, ne sont pas comptabilisés alors que ils sont dans des situations précaires. Donc la France de Monsieur Macron, c'est une France qui vise à précariser les travailleurs, et y compris les personnes qui se retrouvent sans emploi.
Alors François Piquemal, il y a 20 ans a été créée l'ANRU, l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, une institution qui a piloté de nombreux projets à travers la France après les émeutes de 2005. Quel bilan faites-vous de cette rénovation urbaine, puisque actuellement vous faites une tournée des quartiers populaires sur ce thème ?
Oui, tout à fait. Moi, je suis d'une circonscription à Toulouse qui comporte notamment le quartier du Mirail, qui a eu prise avec la rénovation urbaine par le passé et encore aujourd'hui avec des projets parfois de démolition qui sont d'un autre temps, il faut bien le dire. Et en fait, on se rend compte que depuis 20 ans maintenant, l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, prétendait résoudre tout un tas de problèmes qui existent dans nos quartiers. Je pense à l'emploi, on en parlait justement, à l'insécurité, à l'accès aux services publics, à l'éducation, via des opérations d'urbanisme qui consistaient à démolir puis reconstruire et en prétendant faire de la mixité sociale notamment. Donc il m'a semblé pertinent au bout de 20 ans de simplement essayer de faire un bilan en allant voir dans les différents quartiers, alors pas tous, parce qu'il faut bien voir que c'est des centaines et des centaines de quartiers qui partout en France ont été concernés, dans les grandes villes bien sûr, mais aussi dans des villes petites et moyennes. Et c'est la démarche que je fais aujourd'hui. Je travaille aussi de manière complémentaire avec mon collègue de la NUPES ELV, Charles Fournier, qui lui est davantage sur la question de la démocratisation de l'ANRU et des formes de participation habitante.
Alors, quel bilan faites-vous aujourd'hui de l'ANRU ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des ratés ou bien globalement le bilan est positif ?
Alors ça, je pense que on va faire un petit rapport de bilan, notamment que l'on sortira à la mi-juin, où on exposera un certain nombre de constats que l'on fait. Et je pense travailler sur cette question toute l'année, donc avoir pourquoi pas une mission d'information de la délégation des collectivités territoriales qui ont été très engagées là-dedans. Moi, ce que je peux dire, c'est que les objectifs n'ont pas été remplis globalement. Alors certainement, y a-t-il des quartiers où cela a été positif, mais dans l'immense majorité des quartiers que j'ai pu visiter aujourd'hui, eh bien, les problèmes sociaux sont toujours bien présents. Donc peut-être a-t-on à un moment, s'est-on illusionné en pensant que le seul urbanisme pouvait résoudre le problème de vie des gens, et qu'en fait il faut aussi s'attaquer tout simplement aux droits sociaux, à l'accès à l'emploi, voilà, à une politique de sécurité qui ne soit pas celle du chiffre, qui ne fonctionne pas, mais peut-être revenir à une police de proximité qui avait été mise en place fut une époque. Et en tout cas, on va développer ça et on essaye de croiser les regards avec mes collègues.
Alors François Piquemal, le MEDEF s'inquiète du manque de construction de logements neufs. Qu'est-ce qui explique cette pénurie de logements ? Comment relancer la construction pour aider notamment les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, ou encore les familles monoparentales qui n'arrivent pas à se loger ? Je sais que vous êtes un spécialiste du logement.
Oui, alors je pense qu'il y a déjà eu un souci dans le manque de construction de logements sociaux, eu égard de la demande qui ne cesse d'augmenter en France. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont de faibles ressources ne peuvent pas accéder au logement social, ce qui est paradoxal. Ils se retrouvent dans un embouteillage sur la question. Alors certes, il manque des logements. Nous, on voulait construire 200 000 logements publics par an. Mais il y a aussi la question de la rénovation des logements et de la réhabilitation des logements qui doit être posée, et ça pourrait être un chantier national porteur pour toute la population.
Un chantier national porteur parce que cela permet de relocaliser des emplois ?
Oui, déjà, c'est bon pour la planète puisque la rénovation thermique et phonique permettrait d'avoir moins de d'utilisation d'énergie par les habitants. Ça permet aussi aux habitants de faire des économies et ça crée de l'emploi et des filières de formation pour construire et rénover aujourd'hui différemment les logements que cela n'a été fait. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Il s'agit juste d'un choix de planification de la part de l'État qui doit être pris. Mais malheureusement, nous, on avait réussi à faire voter à l'Assemblée un budget conséquent là-dessus, mais ça n'avait pas été retenu par le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Alors, j'aimerais revenir sur la proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Elle a été votée en deuxième lecture le mois dernier. Vous vous êtes opposé à ce texte. Quelles seront les conséquences de cette loi pour les personnes en situation précaire ?
Oui, on s'est opposé à ce texte. On n'a pas été les seuls. Vous avez la Ligue des droits de l'homme, l'ONU, qui a pris parti contre, l'UNICEF, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique. Tout simplement parce que cette loi, elle va avoir des impacts délétères. D'abord sur les locataires qui se retrouvent en difficulté pour payer les loyers. Et d'après les associations, il y en aura de plus en plus à cause des charges qui augmentent. Ensuite, pour les personnes qui sont dans des locaux qu'ils occupent sans droit ni titre. C'est-à-dire, par exemple, une victime de marchand de sommeil, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve à vivre dans un petit appartement ou même parfois dans une cave, un hangar, que lui loue quelqu'un mais sans contrat, eh bien, pourra être criminalisé et risquer la prison ferme. Donc, cette loi, elle est particulièrement injuste. Elle met la tête sous l'eau de beaucoup de personnes qui sont en difficulté de logement. Et je tiens à signaler que cette loi, en fait, est issue d'une proposition de loi déposée en 2018 par le Rassemblement National. Donc la première loi, finalement, du gouvernement sur le logement aura été, ce quinquennat, une loi d'extrême droite.
François Piquemal, lundi, dans toutes les communes de France, on va célébrer, comme chaque année, la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le 8 mai 1945 a une autre signification en Algérie, puisque ce jour-là, et dans les mois suivants, la France a massacré des milliers d'Algériens à Sétif, Guelma et Kirata. Est-ce qu'Emmanuel Macron devrait reconnaître ce massacre comme un crime contre l'humanité?
Alors, en tout cas, il devrait reconnaître ce massacre comme un crime qui a déshonoré la France. Et moi, en tant que membre du groupe d'amitié France-Algérie, je ne manquerai pas de rendre hommage aux personnes qui sont mortes. On estime que c'est entre 3000 jusqu'à 45 000 personnes qui ont été assassinées le 8 mai 45 à Sétif, Guelma et à Kerrata. Donc évidemment, c'est quelque chose qui vient salir la République française et son honneur, c'est de faire un monde honorable et de demander pardon pour ce crime.
Qu'est-ce que vous répondez à la droite et à l'extrême droite qui dit que la France n'a pas à s'excuser pour son passé?
Mais c'est qu'ils ont une vision très étriquée de la France, un grand pays. C'est un pays qui porte des choses positives, mais c'est aussi un pays qui parfois a connu et dont les agents se sont comportés de mauvaise manière. Et il faut savoir le reconnaître. On peut être fier de son pays tout en reconnaissant les torts qu'il a eus ou qu'il a pu faire à d'autres peuples. Moi, c'est mon cas. Moi, je suis fier d'être français, mais je suis fier d'être de la France de Manoukian, de Jean Moulin. Je suis pas fier d'être de la France du maréchal Pétain. C'est pas mon histoire et c'est pas ce que j'ai envie de retenir comme point d'appui pour l'avenir. Donc, je suis fier aussi des Français qui sont engagés aux côtés des combattants de la libération de l'Algérie. Et je pense que reconnaître les massacres qui ont lieu lors de l'après-guerre, c'est la moindre des choses. Si on veut pouvoir aussi améliorer encore les relations entre nos deux pays, la France et l'Algérie, qui ont tant à partager.
Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé que la première ministre italienne, Giorgia Meloni, était incapable de régler les problèmes migratoires, ce qui a déclenché une crise diplomatique entre Rome et Paris. Le chef de la diplomatie italienne a annulé son voyage à Paris. Est-ce que Gérald Darmanin a raison de montrer finalement que l'extrême droite au pouvoir n'est pas capable de lutter contre l'immigration clandestine ?
Bon, je pense que là, Monsieur Darmanin, comme beaucoup, beaucoup de fois, fait des effets de manche, puisque lui-même, sur certains sujets, n'hésite pas à prendre les thématiques de l'extrême droite et à trouver Marine Le Pen parfois trop molle sur ce sujet. Je pense que plus globalement, la question de l'immigration est une question complexe qui est partie intégrante de l'histoire de notre pays. Il y a eu des vagues de migrants depuis toujours. Moi-même, je suis Toulousain. Si vous voulez, il y a eu différents peuples qui se sont succédés, des Volsques Texossages aux Visigoths et ensuite des vagues migratoires qui ont lieu au 19e, au 20e siècle, venues des quatre continents. Dans l'idéal, les gens ne partent pas de leur pays ou de leur lieu de vie par plaisir. On ne part jamais par volonté, ou alors c'est très rare. C'est parce que les conditions de vie sur place ne sont pas acceptables ou tenables. Donc bien sûr qu'il faut accentuer l'aide au développement. Et moi, je tiens à dire à Gérard Darmanin, qui traite les militants écologistes d'éco-terroristes, qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique est le facteur qui va être le plus important dans le fait que des gens ne vont avoir d'autre choix que de migrer s'ils veulent pouvoir survivre. Donc, s'attaquer, entre guillemets, au fait de vouloir moins de migration, c'est passer aussi par la lutte contre le dérèglement climatique. Et je pense que ça, ce serait quelque chose de plus efficace, tout comme l'aide au développement et la solidarité entre les peuples.
Comment analysez-vous la progression de l'extrême droite dans les sondages ? Est-ce qu'il faut prendre au sérieux le risque de son arrivée au pouvoir en 2027 ?
Alors, l'extrême droite a déjà été plusieurs fois au second tour, donc la potentialité qu'elle arrive au pouvoir est réelle. Maintenant, je pense que, comme souvent dans les sondages, elle est surestimée et que nous sommes sous-estimés. Mais chacun commence à bien comprendre que la déliquescence intellectuelle et morale du macronisme l'entraîne vers des bas-fonds, plus l'entêtement d'Emmanuel Macron qui ne se représentera pas, et que le match en 2027 sera entre nous, la NUPES, la gauche unie et l'extrême droite. Et donc, pour cela, il faut, et c'est ce que nous nous efforçons de faire, être le camp de ceux qui portent l'espoir, et non pas la frustration et la haine de l'autre comme le Rassemblement national. Et moi, j'invite tous vos auditeurs à aller bien voir les votes des députés du Rassemblement national qui prétendent pourtant être près du peuple. C'est eux qui votent contre l'augmentation du SMIC. C'est eux qui votent contre l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est eux qui votent contre la taxation des super-profits. Donc vous voyez, le fauné du Rassemblement national, derrière, c'est bien la protection de l'oligarchie et du capitalisme en face.
Merci François Piquemal. Je rappelle que vous êtes député LFI NUPES de Toulouse. Bonsoir.
Merci, bonne soirée.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.